Félicitations, gang de malades, vous avez bien fait des choses. Il y a encore 150 membres là-dedans, 150 soldats qui œuvrent et on les salue, eux autres avec. Avant de saluer Éric Lantier qui est au bout du fil pour nous parler d'un petit sujet qui a rapport à Lévis, entre autres. Bonjour Éric, comment ça va?
Ça va bien.
J'étais content de lire tes sujets tout à l'heure dans la préparation, surtout celui concernant la suppléance. On a des problèmes de main-d'œuvre pour les écoles dans le coin. La commission scolaire des navigateurs a annoncé avec ça à ses enseignants réguliers qui devraient faire du temps supplémentaire pour les remplacements.
Mm-hmm.
Je voulais t'entendre là-dessus, juste comme ça, commentaire là, ouvert de l'angle que tu veux. C'est sûr que ça chiale au syndicat. Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà arrivé? C'est logique, ça n'a pas de sens. Comment tu vois ça, ancien directeur d'école, toi?
Ben, ancien directeur, puis moi, quand j'ai été au baccalauréat en préscolaire primaire, ce que je faisais, c'est que je me rendais à la polyvalente. Je m'assoyais le matin à 7 heures pour attendre qu'il y ait des profs qui appellent à la dernière minute.
Ah oui?
Là, j'en avais toujours. J'allais le jeudi puis le vendredi.
Okay.
Peux en avoir.
Ah, surprise, le vendredi, regarde donc ça.
Ouais, ouais. Ah. Mais moi, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent se lancer en enseignement ou ceux qui ont déjà été dans l'enseignement puis qui veulent avoir un salaire d'appoint puis qui aiment ça être avec les jeunes. C'est le temps de faire la suppléance, c'est le temps de faire sa place. Spécialement quand t'es au baccalauréat, plutôt qu'aller vendre du café, là.
Ouais.
Ben, tu t'en vas là, tu fais tes classes, t'apprends à t'organiser, tu développes un réseau de contacts. Pour les futurs enseignants,
puis, c'est extraordinaire. Tu apprends si tu vas vraiment aimer ça. C'est pas une dévotion qui est donnée à tout le monde, ça, d'être un bon enseignant. Je cherche le mot, là, une fibre,
une vocation. Exactement. Alors,
peut-être une petite vérification. Est-ce que je me trompe ou quand t'as un bac dans vie, il y a des possibilités, même si c'est pas en enseignement, que t'as fait du remplacement dans les écoles secondaires?
Ben oui, écoute, ce qui est arrivé, c'est que dans mon temps, là, dans l'ancien temps, là, quand tu avais un bac, on va dire en mathématiques, tu allais faire un certificat en éducation, tu pouvais trouver un poste d'enseignant assez facilement.
Oh ouais.
Après ça, ils ont resserré les critères, puis ils ont dit non, ça prend absolument un bac en enseignement, même si tu as fait un bac en mathématiques, faut que tu refasses le bac au complet en enseignement.
Ouais.
Et là, ils ont serré les critères, à tort ou à raison. Et aujourd'hui, à cause qu'il y a tellement une pénurie d'enseignants, puis là, c'est plus une pénurie d'enseignants, c'est une pénurie de suppléants, ils vont prendre n'importe qui a un baccalauréat, qui a du bon sens, puis qui a une tête sur les épaules.
OK. Et ça, c'est le syndicat qui juge ça, ou?
Non, c'est les directions d'école qui disent. Parce que il y a des enseignants qui sont à 110-120% de tâches. Qu'est-ce qu'ils font? C'est que pendant que les élèves sont en éducation physique, le directeur dit, écoute, il y a personne dans la classe à côté, t'as pas le choix, faut que tu prennes la classe.
Ouais.
Puis là, il dit, ouais, mais moi, j'avais prévu faire des corrections, j'avais prévu rencontrer un parent. Ben, écoute, il va falloir que tu t'organises, tu remettes le rendez-vous, parce que là, il y a personne dans la classe. On peut pas laisser la classe vide, là. C'est impossible.
Bon.
Fait que là, c'est que ceux qui manquent, c'est parce qu'ils sont en surcharge, puis là, t'es en train de surcharger ceux qui restent. Et c'est ça, c'est important.
Je comprends, mais il y a des profs qui gagnent 85 000 piastres par année, ils ont 40 ans, ils ont des belles semaines de vacances l'été, ils ont tous les congés qui existent, plus peut-être un peu de temps dans le relâche, un beau temps des fêtes. Et leur justification que j'entends souvent, c'est « ben oui, mais on travaille le soir, nous ». Mais là, on comprend qu'ils ont des périodes où ils peuvent faire ce travail-là pendant la journée, je sais pas, là, côté négociation au bout de la ligne. J'espère que quelqu'un va leur remettre ça pareil sous le nez. C'est un salaire de quelqu'un qui compte pas ses heures, 85 000 piastres par année.
Mm-hmm.
Ça me traumatise pas bien d'entendre ça, finalement. Au bout de la ligne, tu comprends bien tu devais te douter de mon point de vue là-dessus. Mais là, le syndicat là-dedans, c'est clair qu'il y aura des plaintes, des griefs de lever, des choses comme ça. À ton avis, oui.
Ah, c'est sûr.
Ouais.
Oh, oui, ça c'est sûr. Parce que ce qui arrive, c'est qu'il y a aussi il y a une chose qui a changé depuis 20 ans, c'est que les élèves sont plus ce qu'ils étaient auparavant. Parce qu'auparavant, quand l'enseignant disait silence, les élèves gardaient le silence.
Ouais, t'es aussi bien, sinon on peut manger une claque.
Ben c'est ça. Il y avait comme un.
Puis les parents, ils en voulaient des claques aux parents. Ah ouais, ménage-les pas. Là, c'est le contraire total. Ouais.
Exactement. Donc, le niveau de gestion de stress des enseignants, le niveau de capacité de gérer, par exemple, la classe, de gérer ceux qui... Puis, il y a de plus en plus d'élèves qui sont médicamentés pour différentes raisons, soit pour des allergies alimentaires, soit pour des troubles de comportement. Et ça fait que la pression et la gestion de la classe est de plus en plus exigeante.
Ouais.
Ça fait en sorte qu'il y a des enseignants qui disent hey, écoute, moi, je vais faire autre chose. Je vais travailler, par exemple, pour une maison d'édition. Je vais créer du matériel pédagogique pour enfants. Ou je vais m'en aller, je vais me recycler. Je vais faire de l'animation.
Je vais faire de la chronique dans des radios. Mettons. Hein, Eric? Elle est bonne. Mais sérieusement, tu sais, je trouve ça spécial. La vocation est où là-dedans? C'est loin d'être de quoi, avec de la broue dans le toupette. Compare ça à oui. Tellement de métiers. Oui, c'est important. On veut qu'il y ait l'oxygène nécessaire. Mais c'est plus des ressources que des augmentations de salaire. Et là, oui. Si on n'est pas capable de leur fournir, exact. Peut-être que ça va se répercuter comme ça. Mais au bout de la ligne, on peut économiser de l'argent en engageant moins de monde, en faisant faire des heures supplémentaires. Parlons-en aux gens dans le ministère de la Santé qui fonctionnent de même depuis longtemps. On peut pas brûler tous nos profs non plus, mais...
Non, mais moi, ce que je dis, là, c'est parce que la CAQ, à un moment donné, son discours, c'était « on va augmenter les salaires des enseignants, on va démontrer qu'ils sont importants, on va revaloriser cette vocation-là. » Mais moi, pour avoir été dans le milieu, là, c'est pas tant le salaire qui doit être augmenté, mais c'est plus de périodes de libération pour rencontrer les parents, pour avoir des réunions d'équipe, pour trouver des stratégies comment mieux intégrer les enfants, pour justement voir avec des spécialistes, rencontrer des psychologues ou avoir des formations d'appoint pendant ces périodes de libération-là. Ouais. Pas des libérations pour prendre un café, là, mais pour mieux faire sa job. Alors, et moi, je dis que c'est là. Si les enseignants étaient libérés puis équipés puis qui étaient comme encadrés puis alimentés dans la réalité d'aujourd'hui, les enseignants se sentiraient soutenus puis là, je veux dire, il y aurait un souffle, il y aurait une énergie qui serait là parce que enseigner, là, faut continuellement, un bon enseignant qui a la vocation, continuellement, il va rechercher à trouver des nouveaux moyens pour améliorer, justement, son rôle, parce que s'il n'améliore pas son rôle, c'est les élèves qui en dépendent, puis c'est eux qui vont... Leur avenir est en jeu.
Ils vont compenser, entre guillemets. J'ai goût. Peux-tu me donner une recommandation, Eric? Je vais aller porter mon CV, moi. Ça va passer par là. Tassez-vous, les petits gars, les petits... On s'en parle de ça. On voulait parler toujours dans le domaine de l'enfance, quand même. Les problèmes pour accès au réseau de la santé chez certains. Des enfants sans papier, un dossier qui nous vient des médias québécois.
Ben, la presse en a parlé. Okay. Et puis, c'est qu'il y a des centaines d'enfants sans papier qui sont toujours pas couverts par le régime d'assurance maladie du Québec, la RAMQ. Et ce qui arrive, c'est qu'il y a des enfants, on accueille de plus en plus d'immigrants. Et ce qui arrive, il y a un certain nombre d'immigrants comme ça qui n'ont pas de statut officiel. Ils sont, on appelle ça des sans-papiers. Donc, ils sont pas des citoyens reconnus. Ils sont pas des citoyens permanents.
C'est pas nécessairement du monde permanent. Qui sont passés par le chemin Roxham. Tu peux arriver ici comme touriste puis coller dans le coin finalement. Au bout de tant de temps, ben t'es plus valide, là, autrement dit. Ouais, de toute façon, sans citoyenneté, les soins de santé, faut que tu payes. J'imagine qu'on n'est pas si sauvage à demander en premier le paiement avant de soigner, là, quand même. Non.
Ben, ce qui arrive, c'est qu'il y en a qui bon, quand t'es immigrant, t'es pas nécessairement au courant des lois, t'es pas nécessairement au courant de tes droits, et il y a des gens qui vont essayer de trouver des moyens de faire de l'argent, puis donc ils vont pas trop s'occuper de leur enfant parce qu'ils sont préoccupés par des besoins de base fondamentaux. D'autres, c'est la langue. Ils arrivent ici, ils savent pas parler nécessairement le français ou ni l'anglais. Et donc, il y a différents facteurs qui font en sorte qu'il y a des enfants qui sont privés de soins. Et moi, ce que ça me lance comme signal, c'est de dire, on a beau vouloir être accueillant puis accueillir tous ceux qui rentrent ici, mais là, on a une raison supplémentaire pour dire, faut faire attention parce que c'est bien beau les accueillir, mais si on n'est pas capable de prendre soin de ces gens-là, s'ils sont malades, et si leurs enfants sont malades, raison de plus, il faut se donner des moyens de dire, selon notre capacité d'accueillir, on va en accueillir et non pas accueillir n'importe qui rentre.
Mais les enfants, est-ce qu'on pourrait pas... Ouais, si on fait une mesure que tous les enfants ont accès aux soins de santé, on peut s'attendre à ce qu'on ait des tentatives en pas mal plus grand nombre au bout de la ligne. Parce qu'il y en a qui viennent carrément accoucher ici pour la citoyenneté dans le futur. On donne absolument rien, on prend, puis on va revenir prendre quand ça va nous adonner, tu sais. Fait qu'on peut pas élaborer plus qu'il faut là-dessus comme politique pour ouvrir. Alors ça va demeurer un problème, je pense, un bout de temps. On s'en reparlera. Éric, passe au dessert maintenant. Tu voulais parler de polygamie. Normand Lester a écrit un papier là-dessus. Deux poids, deux mesures dans cette pratique-là pour l'approche gouvernementale. Je te laisse élaborer, mettre le contexte.
Ouais, ben c'est ça, parce que... C'est quelque chose qui revient souvent parce que à la fois les musulmans, la communauté musulmane et les mormons sont ouverts à l'idée de ce qu'un homme peut avoir plusieurs femmes.
Moi aussi. Donc,
c'est pas quelque chose qui est obligatoire, mais c'est quelque chose qui est accepté, ouais. Qui est pas vu comme négatif.
Alors.
Mais ce qui arrive, c'est qu'en 2017, il y a eu deux hommes qui ont passé devant les tribunaux parce que ils ont voulu épouser deux femmes, puis ils ont cherché à trouver le moyen d'épouser deux femmes. Tandis que lorsque il s'agit des musulmans, eh bien là, on les poursuit pas devant la justice.
Les deux mormons en 2017, pas plus tard qu'en 2017, on a vu plein de cas, ça vient tout le temps de l'Ouest. Mais des mormons dans l'Est, il y en a moins. Je pense qu'il y a d'autres sectes où la polygamie peut être acceptée, mais ça prend vraiment un mariage officiel, puis il y a eu plein de cas, puis ils ont tout le temps été... persécuté, pour le traduire bizarrement, persecuted. C'est vrai qu'on n'a jamais vu un musulman, puis on sait qu'il y a cette pratique-là, et donc on comprend là que c'est vrai qu'on évite du côté du gouvernement du Canada. Pourquoi? Pourquoi on évite les musulmans de les amener en justice là-dessus alors qu'on le fait pour d'autres?
Ben, faut dire qu'ils sont beaucoup plus revendicateurs. Les mormons sont... disons qu'ils sont plus modérés, ils sont moins revendicateurs.
Okay, ouais.
C'est des gens qui veulent avoir moins de troubles et donc et ce qui arrive aussi, faut pas se mettre la tête dans le sable, c'est que ce qu'ils vont faire, que ce soit des mormons, des musulmans ou même c'est arrivé des gens d'affaires qui se sont vantés d'avoir plusieurs femmes et donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont avoir peut-être une femme officielle avec les papiers en disant qu'ils sont dûment mariés selon les règles de l'État. Puis ils vont avoir d'autres femmes qui vont habiter chez eux, soit dans des chambres différentes ou dans la même chambre. Mais ça sera pas officiellement leur femme, mais dans les faits, ça va être leur épouse.
Fait que c'est pas illégal d'abord, c'est vraiment le papier qui a, t'as pas le droit. T'as le droit de vivre avec plusieurs femmes. Là. D'ailleurs, si c'était pas le cas, je pense qu'il faudrait qu'on revise notre constitution, là. C'est toujours bien. Là, les LGBT, tout ça, on accepte tout, sauf cette affaire-là, ça serait particulier un peu. Puis l'inverse devrait être interdit aussi, une femme avec plusieurs hommes, tout ça. Ça serait un peu débile, là. Donc, c'est le papier qu'on vise, ce qui est aussi un petit peu débile, à mon opinion, personnellement. Hein. Mais là, l'empêchement, la retenue du gouvernement fédéral est aussi peut-être du registre de on veut pas que ça soit challengé parce que ça passerait pas le palier des tribunaux fédéraux. Mettons la Cour suprême.
Ben, ce qui arrive, c'est que ça, c'est que il y a certains gens de la communauté musulmane qui disent non, au contraire, poursuivez-nous parce que nous, on est équipés pour justement défier la Charte des droits et libertés parce que selon eux, ils disent la Charte des droits et libertés nous garantit qu'on a un droit de rassemblement. On a un droit de liberté de religion.
Okay.
Puis donc, pourquoi vous permettez justement que deux hommes se marient ou deux femmes, mais vous permettez pas qu'un homme se marie avec deux femmes? Mm-hmm. Donc ça c'est ma liberté. Si je peux en prendre soin, pourquoi que l'État me dicterait que c'est pas bon pour moi si les gens sont consentants, si les gens sont bien traités, on en prend soin de manière équitable et juste.
Mais pour vrai, ça.
Alors c'est sûr qu'eux, ils attendent juste ça.
C'est pas fou là.
Qu'à un moment donné, les tribunaux fasse comme l'euthanasie, fasse comme le mariage gay, dire, ben écoutez, on peut pas se mêler de ce qui se passe dans la chambre à coucher.
Mais pourquoi est là cette toile-là à base? C'est une affaire de puritain religieux anglais, ça. Non? Pas français aussi, catholique. C'est une affaire religieuse d'interdire ça, là.
Ben, c'est parce que, justement, le Québec et le Canada ont été fondés par des gens qui avaient des valeurs judéo-chrétiennes.
Monogames.
Pardon?
Des valeurs monogames.
Oui, des valeurs monogames, absolument. Et aussi, il y a les féministes, la plupart des féministes s'opposent à la polygamie. Et ça, c'est un segment de la population que les politiciens veulent pas se mettre à dos, hein.
Probablement. Ouais. Mais là, le choix, ça marche pour le voile, c'est leur choix, mais dans le cas de se marier, les féministes, des féministes trouvent que ça devrait pas être leur choix. Il y a deux, trois contradictions dans tout ça. C'est intéressant. On aime ce genre de sujet. On aime te parler. On remet ça la semaine prochaine. Éric, en attendant, on te lit sur ton site. Je te laisse donner l'adresse.
Oui, ericlantier.net. Donc, toutes mes interventions médiatiques sont là. Et puis, que vous soyez d'accord ou non, je vous invite à me proposer vos points de vue, à commenter, à débattre. C'est toujours le fun de pouvoir échanger, même si on a des points de vue différents.
Merveilleux. Merci, Éric. Yeah.
Au plaisir, au revoir.
À la semaine prochaine, c'était Éric Lantier. Allez lui parler sur Facebook aussi. Il est bien ben accueillant, il est bien de jasette. Si vous avez des commentaires sur la polygamie, quoi que ce soit d'autre, la page Les Salles des Nouvelles est là pour ça. Salle avec juste un L. Puis vous pouvez m'écrire directement, Guillaume Ratté-Côté. Ça me fait plaisir de répondre. Qu'est-ce que tu penses de ça, la polygamie, Vanessa Villeneuve? Une femme en studio, on va utiliser la carte. Ah ouais.
La polygamie?
Fais-nous un exposé sur la polygamie.
Garde. Mais si... Non, moi, je suis pour la monogamie.
Ouais, mais si le monde s'entend, l'interdire, c'est quand même un peu rentrer dans la chambre à coucher du monde, non?
Ben, c'est ça. Moi, j'aimerais ça que Trudeau reste en dehors de ma chambre à coucher autant que possible. Puis, tu sais, vis ta vie comme t'as envie de la vivre, hein, tant que t'es heureux.
Ouais. Tu sais, qu'est-ce que ça fait là, qu'il y ait plusieurs papiers officiels? Parce que c'est vraiment ça qu'on t'en a pas. C'est quand ils vont vraiment, ils s'entêtent à aller devant le juge ou le prêtre.
Trop de paperasse pour le gouvernement, blablabla, regarde.
On a deux rapports d'impôts, come on.
C'est ça.
Il y a 4 millions de contribuables au Québec. Il y en a peut-être 5-6 qui sont polygames. CGMD, bonjour, êtes-vous polygame?
Polygame, c'est le fun quand il neige de même, sa sœur appelle-t-elle l'entrée.